Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
h08 sur RMC en ce 15 novembre 2020, dernière partie de votre week-end des experts sur RMC. Jean-Luc toujours à mes côtés et à partir de 10h vous retrouverez les paris RMC avec Jean-Christophe Drouet, bien sûr. Au menu de cette dernière heure, tout à l'heure, eh bien, on découvrira ce portique magique qui permet de faire une expertise de votre auto en quelques secondes. C'est une start-up française. On vous explique tout à l'heure. On découvrira aussi les bonnes affaires à faire dans le domaine de l'automobile pour cette fin d'année 2020, Jean-Luc.
On se posera surtout la question, est-ce qu'on peut faire des bonnes affaires ?
Eh oui.
Ah ouais, parce que d'habitude, vous savez, il y a le malus qui arrive le 1er janvier, donc on se dépêche de commander des voitures avant d'avoir le nouveau barème de malus, qui est en général quand même un peu plus sévère que celui de l'année d'avant, mais là, ça a été reporté. Donc, qu'est-ce que c'est ? Quelque chose de bien pour les concessionnaires, parce qu'ils doivent remplir des objectifs, ils vont avoir déjà beaucoup de mal à le faire cette année, pour avoir des primes. C'est une partie non négligeable quand même de leurs gains dans l'année. Hein. Donc là, on est dans une période, là le mois de décembre, ça va être très compliqué.
Voilà, et on en parlera avec le directeur général d'AutoJM, Jean-Luc, qui sera avec nous. Et puis bien évidemment, tout au long de cette dernière partie, vos questions auto, 32-16, on parlera ralentisseur tout à l'heure. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, Jean-Luc.
Oui, parce qu'il continue à faire n'importe quoi.
On en parlera avec Thierry Modolo dans quelques instants. Mais pour débuter cette troisième partie, c'est Gaëtan qui est avec nous au 32-16. Bonjour Gaëtan.
Oui, bonjour.
Bonjour Gaëtan.
Bienvenue.
Moi je vous appelle, j'ai une 3008 de 2018 que j'ai achetée en concession. Et en fait, j'ai un problème dessus, c'est un problème de... Donc c'est une essence.
Oui.
Elle a 58 000 km.
Oui.
Et j'ai un problème de pression de vue le moteur quand je roule. Surtout le matin quand je démarre.
D'accord.
Pendant le temps que le véhicule chauffe, après ça continue quand même à le faire. Je l'ai amené chez Peugeot et Peugeot.
Alors attendez, vous avez un problème de pression d'huile, ça se manifeste comment ? Vous avez un témoin qui s'allume ?
J'ai un défaut qui s'affiche. Ouais. Oui, non, j'ai un défaut oui, qui s'affiche sur le tableau de bord.
D'accord.
Et en fait, je peux plus accélérer, je peux plus rien faire.
D'accord.
Donc il faut que j'éteigne le véhicule, que je redémarre et que je reparte.
D'accord. Donc vous êtes allé chez le concessionnaire et ?
Oui. Et du coup, là, deux fois, ils n'ont pas trouvé d'où ça venait. Donc je dois leur ramener le 1er décembre et ils vont me la garder, ils savent pas ce que c'est.
Et vous voulez que moi, depuis le studio, je vous dise de quoi ça vient.
Alors,
non, je vais vous dire, ça peut, parce que franchement, si c'était un vrai problème de pression d'huile, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de pression d'huile du tout, vous démarrez et quand vous roulez, vous iriez pas très très loin avec pas de pression d'huile, hein. Le moteur casserait. Mmh. Donc c'est certainement pas ça. À mon avis, c'est plus un problème de capteur de pression d'huile.
Alors ils m'ont dit qu'ils l'avaient testé la dernière fois que je l'ai amené, parce que je leur en ai parlé, j'avais regardé sur le forum et j'avais vu que quelqu'un avait eu ce problème-là aussi et que c'était le capteur. Donc je lui ai dit et il m'a dit qu'il l'avait testé et qu'il était bon, le capteur.
D'accord. Bon bah écoutez, ouais. si le capteur est bon et qu'eux sont incapables de trouver ce qu'il y a comme panne sur la voiture, ça va être difficile à distance, hein.
Ah oui, non, mais je sais pas, des fois que vous...
Non, mais il n'y a pas de problème de pression d'huile sur ce véhicule-là, il n'y en a pas. Il y a plein d'autres problèmes sur ce moteur-là, mais pression d'huile, il a combien de kilomètres d'ailleurs ?
58 000.
Ouais, 58 000, le moteur, il est neuf pratiquement.
Bah ouais, il est de décembre. Vous
avez, ouais, vous avez fait les vidanges en temps et en heure.
Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Les deux premières révisions, enfin voilà quoi.
Bah ils vont être obligés...
Changer les filtres à huile... Parce qu'au début, il m'a dit ça, il m'a dit peut-être que c'était
peut-être,
un filtre à huile.
Peut-être, ça peut être un filtre à huile défectueux, effectivement.
Non, mais ça le faisait avant la dernière révision où j'ai changé les filtres.
D'accord.
Et donc, il m'a dit, ça vient sûrement du filtre à huile. Donc, le filtre a été changé et ça a continué à me le faire.
D'accord, bah, c'est peut-être une conduite d'huile qui est bouchée quelque part, mais là, votre moteur, il aurait dû prendre une claque, si jamais ouais. C'est ça. Malheureusement, j'ai pas de réponse. C'est pas un problème connu sur ce modèle-là, donc je peux pas D'accord. vous dire oui. Effectivement, il y a eu déjà des cadres recensés. Maintenant, si les deux pistes que moi j'avais, elles ont été explorées, c'est-à-dire le filtre à huile et le capteur de pression. Après, malheureusement, je peux pas plus vous dépanner que ça, quoi.
D'accord. Bon.
Bon, Gaëtan, désolé. Hein.
Parfait. Écoutez, c'est très gentil en tout cas. Je vous remercie.
Merci Gaëtan, au revoir.
À bientôt Gaëtan, et merci de nous écouter depuis l'Hérault. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Tiens, si vous avez une petite idée, justement, concernant le problème de la 3 de Gaëtan, dites-le nous, hein, sur Direct Studio. Peut-être que nous
non,
avons.
Non, c'est une 3008.
Une 3008, pardon. N'hésitez pas. Hein. Vous pouvez nous le dire via l'appli RMC Direct Studio. Jean-Luc, Thierry Modolo est avec nous au 32-16. Bonjour Thierry.
Bonjour François, bonjour Jean-Luc.
Bonjour Thierry, un des plus fidèles auditeurs avec ma mère et votre mère François.
Exactement, voilà, vous êtes président de l'association Mobilité Sereine et Durable, rappelons-le.
Absolument.
Avec vous à chaque fois on évoque le sujet des ralentisseurs hors normes, avec cette semaine une actualité plutôt qui va dans le bon sens, puisque vous avez décidé d'allier vos forces avec alors quelqu'un qu'on connaît un petit peu, parce que c'est Rémi Jossomme, qui est le président de l'Automobile Club des Avocats, qui va participer avec vous, et puis une association d'automobilistes pour partir enfin en guerre de façon concertée contre ces fameux ralentisseurs.
Absolument. Donc, en fait, nous avons décidé d'allier nos forces avec une très grosse association qui s'appelle la Ligue de défense des conducteurs, qui est spécialisé donc dans tout ce qui concerne l'automobile.
Thierry, s'il vous plaît, essayez de parler plus près de votre téléphone si vous avez l'ampli des Activileux.
Non, pas du tout. Je l'ai à l'oreille.
Voilà.
Vous m'entendez mieux ?
Ouais, ça résonne un petit peu. C'est pas terrible, mais on va y arriver. Allez-y.
D'accord. Donc en fait, nous nous associons avec la Ligue de défense des conducteurs, qui est une grosse association basée à Paris et qui travaille spécifiquement sur des études et du lobbying par rapport à l'automobile. Et l'Automobile Club des Avocats, par le biais de Rémi Jossomme, avec qui nous travaillons déjà dans le cadre de litiges sur les ralentisseurs.
D'accord. Alors concrètement, vous allez lancer des actions de grande ampleur contre ces ces ralentisseurs illégaux.
Oui, tout à fait. Donc là, on va donc lancer d'abord des travaux, des études d'impact sur les véhicules, sur la pollution, de manière à mettre en avant tout ce qui est généré par le ralentisseur et qui est nocif pour tout un chacun.
Alors, quand vous dites impact sur le véhicule, c'est quoi ? C'est l'usure des suspensions, les freins, c'est tout ça ? Et quand vous dites pollution, ça augmente la pollution, les ralentisseurs ?
Alors, pour ce qui est de l'impact mécanique, oui, c'est-à-dire que ça commence au niveau du pneu. Et puis tout ce qui est entre la voiture et la route, ça provoque de la casse, de l'usure prématurée, des déformations. Donc tout ça, bien sûr, va être mis en avant avec des appareils électroniques certifiés. Et en effet, on va mettre aussi en avant toute la partie pollution, puisque par obligation, on est obligé de surfreiner quand on se présente sur un ralentisseur et de réaccélérer derrière pour relancer le véhicule. Et donc là, c'est pareil, on va donc faire des études sur des véhicules avec des capteurs électroniques certifiés, présence d'huissier, et ça va permettre de mettre en avant tout ce qui ressort déjà d'études faites par de l'ADEME, par des laboratoires comme Atmo et compagnie, qui ont mis en avant l'impact très significatif des ralentisseurs sur la pollution atmosphérique.
Ouais, je crois qu'en Angleterre d'ailleurs, Thierry, il y a pas mal de villes qui ont supprimé les ralentisseurs parce que ça augmentait. Alors à la fois la pollution gazeuse, mais la pollution sonore aussi, parce que un ralentisseur à proximité de chez soi, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est plus générateur de bruit qu'autre chose.
Tout à fait. En Angleterre, donc il y a 3 ans, est sortie une étude faite par une université londonienne qui a incriminé très sévèrement les ralentisseurs. Ils avaient fait un calcul dans lequel ils estimaient à 25 000 morts par an dû à la surpollution générée par les ralentisseurs. C'est quand même quelque chose de colossal quand on le met en parallèle avec l'accidentologie de la route.
C'est impressionnant. C'est 3 400 morts par an, c'est ça ?
Exactement.
Donc c'est 9 fois plus en fait.
Alors voilà, on est quand même dans des ratios qui sont quand même très très importants. Voilà, donc nous associons nos forces. Ce qui va nous permettre de lancer d'abord des actions un peu partout en France. Aujourd'hui, il y en a déjà une bonne trentaine devant les tribunaux. Ça tend à s'accélérer très fortement depuis quelques mois. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, et ça concerne François directement, il y a une très grosse action qui est lancée dans le sud de la Corse par la SSMC Corse, en partenariat avec nous. Nous leur servons de support technique et juridique. Ça remet en cause une très très grande majorité des ralentisseurs du sud de la Corse. Et à mon avis, les élus ont quand même pas mal de soucis à se faire.
Ouais, ils n'ont pas explosé les ralentisseurs au sud de la Corse, c'est étonnant ça quand même.
C'est quelque chose qui m'a étonné, effectivement, connaissant un peu l'état d'esprit corse.
Les coutumes.
Les coutumes en vigueur. Mais je pense que les élus corse ont quand même de gros soucis à se faire au moment où ils vont être mis devant la justice.
Ouais. Il y en a des procès qui aboutissent de plus en plus, ou alors c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau, parce que c'est vrai qu'on a l'impression de se battre. À chaque fois qu'on monte au créneau pour se battre contre des élus, comme ça, on a l'impression que c'est le pot de terre contre le pot de fer et que ça ne sert à rien.
Alors, non, justement, ça ne sert pas à rien. Donc, nous, le 8 octobre, nous avons fait condamner encore une commune dans le Var, qui a été condamnée à la totale, c'est-à-dire ça va de l'indemnisation totale du plaignant qui avait cassé son carter d'Audi A4 sur un ralentisseur. Alors, c'est un dangereux criminel, hein. C'est un monsieur qui a plus de 75 ans.
Ah oui, mais ça, oui. Voilà. Qui roulait au moins à 31 km/h, donc un danger
exactement,
public.
Exactement. Et puis, il y a derrière la destruction du ralentisseur pour pouvoir le mettre en conformité éventuellement si la commune le décide.
Oui, parce qu'on va préciser quand même pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y en a toujours qui râlent, vous n'êtes pas contre les ralentisseurs, vous êtes contre les ralentisseurs illégaux.
Et bien sûr,
c'est-à-dire ceux qui ne respectent pas les normes, il faut préciser ça quand même.
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ralentisseur, pour qu'il soit jugé conforme et donc légal, il faut qu'il ait passé tous les filtres du décret de loi qui en autorise ou en interdit l'implantation, et ensuite il va être construit selon une norme qui n'a pas bougé depuis plus de 20 ans et qui, à mon avis, ne bougera pas puisqu'elle est constituée d'éléments qui viennent de la garde au sol des véhicules. Donc, sauf à rouler avec des voitures pour le Paris-Dakar, on aura du mal à passer des ralentisseurs de 25 cm à 30 km/h.
Voilà. Merci Thierry pour toutes ces précisions. Merci.
On aura l'occasion d'en reparler.
Oui, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là.
Oui, il faudra acheter un Hummer électrique avec la suspension active pour remonter et tout. Là, on peut passer les ralentisseurs sans ralentir.
Ou un tank.
Un tank, ça serait une bonne solution pour supprimer les ralentisseurs.
C'est pas mal. Peut-être qu'on va en avoir en Corse du Sud, là, bientôt. Juste pour revenir au problème de Gaëtan, on a pas mal de réactions sur Direct Studio, Jean-Luc, d'auditeurs qui nous disent que sur leur véhicule, qui était une 3008 aussi, c'était le turbo qui avait pété. Et donc Peugeot l'avait changé. Et on a aussi William qui nous dit même problème avec ma 3008. Peugeot m'a changé le moteur.
D'accord. Oui. Bah alors, mais un turbo qui lâche, ça se ressent, ça s'entend. Un turbo qui lâche, la voiture elle marche plus. Enfin, il y a des signes avant-coureurs, ça fait du bruit en plus.
D'accord. Bon, enfin, en tout cas, vous réagissez et ce problème. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment le même, hein, sans doute pas, mais en tout cas, vous remontez vos problèmes
que
vous avez eu avec la 3008.
Un turbo cassé, à partir du moment où le concessionnaire a pris la voiture, il l'aurait vu tout de suite quand même.
Bien sûr.
C'est ça qui me pose problème, moi, dans l'énoncé de la question.
Jean-Luc, 9h21, la question pas si bête.
Si je vous dis, con vous avez l'air, c'est pas français.
RMC, votre auto.
C'est juste, mais c'est pas français.
La question pas si bête.
C'est une excellente question.
Alors, la question pas si bête, Jean-Luc. Combien de conducteurs ont leurs 12 points sur le permis ?
Combien de conducteurs dans ce studio, c'est ça ?
Vous en avez combien, tiens, qu'on rigole ?
J'en ai 10.
Ouais, tu parles.
Non, mais c'est vrai.
Ouais,
j'en
ouais,
ai
ouais.
10.
Ouais. 10 ?
Ouais, ouais, ouais.
C'est bien, oh.
Ouais, ouais.
Bravo.
Ouais, mais moi, je fais 60 000 km par an.
Oui, c'est vrai.
Donc, avoir 10 points en faisant 60 000 km par an, c'est presque un exploit dans notre pays.
Vous avez raison.
Ouais, non,
faites 68 km par an.
Ouais, ouais, ouais. Bah oui, je fais les essais de voiture.
Bon, peut-être en 2020, un peu moins, peut-être.
Non, parce que les essais, je fais un essai par semaine, donc il faut que je roule. Hein. Je ne les fais pas dans ma chambre, hein, les essais de voiture.
Heureusement pour votre chambre, voilà. J'imagine le truc.
Non, donc il faut que je roule. Donc en roulant, parfois, je me pose la question que se sont posés tous les automobilistes, mais à combien c'est limité ?
Et oui.
Hein ? Ça m'arrive de temps en temps, je suis à...
Oui, on ne sait pas trop,
on ne sait pas trop
à quelle vitesse
voilà,
on doit rouler.
Des fois, on se dit c'est 70, c'est 90, c'est 80. En fait, le plus gros problème en France aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on n'a pas une uniformisation des limitations de vitesse, et c'est parfois du grand n'importe quoi, ça change tous les kilomètres. Comment vous voulez être attentif à ce qui se passe sur la route et en même temps attentif à la limitation de vitesse, à respecter la limitation de vitesse.
Alors, on s'égare, Jean-Luc. Voilà. Oui. Notre sujet, c'est combien de conducteurs ont leurs 12 points.
Ouais, y en a plein qui disent 12 points, c'est cuit. Hein, le permis à points, c'est cuit. Voilà. Bon, c'était drôle, ça.
Ouais, c'est très bien.
Mais c'est pas si saignant que ça, le permis à points.
Allez-y, faites-vous plaisir.
Non. En France, il y a, et ça m'a surpris, hein, il y a 77,8% des conducteurs qui, aujourd'hui, ont leurs 12 points. C'est quand même beaucoup, hein.
Beaucoup, oui.
Et 81,9% disposent de 11 points et 85,7% d'entre eux ont 10 points ou plus. Donc, vous voyez, 87,5%, ça veut dire, en fait, en plus, les Français perdent de moins en moins de points chaque année. Alors, ça arrange pas trop l'État, parce que perdre de moins en moins de points, ça veut dire de moins en moins de PV, en fait.
Bien sûr.
Alors, est-ce que les conducteurs sont plus responsables?
Après, on peut avoir des PV de stationnement, peut-être augmentent et qui n'enlèvent pas de points. Donc, il faudrait calculer.
D'accord. Mais bon, ça veut dire quand même que, et moi, je le mesure, puisque je suis souvent sur la route, je trouve que les Français ont un comportement vraiment responsable sur la route. Alors, il y a 2-3 illuminés, mais ceux-là, ça sert à rien. Même,
la plupart du temps, ils roulent, ils n'ont plus de points.
Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, en plus, ils n'ont peut-être même pas de permis, pas d'assurance, donc ils s'en fichent complètement. Quoi.
Ouais, bien sûr.
Donc, ces illuminés-là, on peut mettre la réglementation qu'on veut, ils la respecteront de toute façon jamais, sauf à avoir un policier tous les kilomètres pour les arrêter. Un policier dans la voiture, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc, il y a quand même 40 151 657 automobilistes en France qui ont leurs 12 points. Alors, il y a dans les statistiques, parce que vous savez, les chiffres, on peut leur faire dire un peu tout et son contraire. C'est ça que je trouve rigolo, moi. C'est qu'on apprend aussi, alors c'est les chiffres de la sécurité routière, hein, c'est pas les miens, donc c'est des chiffres tout à fait officiels. On apprend que quand même, les auteurs d'accidents mortels sont majoritairement des gens qui ont leurs 12 points. À 53,6%. Donc, dans la façon d'analyser le truc, si j'étais un petit peu direct, je dirais ben finalement, ils sont plus dangereux, ceux qui ont 12 points, que non, c'est pas vrai.
Mais ils sont plus nombreux aussi.
Ils sont beaucoup plus nombreux.
Voilà, c'est les statistiques.
Évidemment. Mais 53,6% des accidents mortels sont causés par des conducteurs qui ont leurs 12 points.
Oui, ben oui.
Voilà.
C'est tout, ça y est, c'est fini.
Non, vous voulez que je vous dise plein d'autres trucs?
Ah, ben je sais pas, encore un petit machin, et puis après, on y va.
Voilà.
Claire est prête hein, pour la météo, si vous voulez. Claire, vous avez vos 12 points.
Justement, c'est ce que je voulais vous dire. Je suis quand même assez fière de ça.
Ouais. C'est vrai?
Ouais.
Bravo.
Ouais.
Bon, 2,4 millions de personnes sont titulaires d'un capital de 11 points.
Oui.
Hein, voilà.
D'accord.
Donc ça, c'est encore pas moi. Alors, je sais pas exactement combien. Il y a les chiffres là, mais ils sont écrits en bas de la page, tellement petits que je suis incapable de vous les lire.
Vous avez pas vos lunettes de vieux?
Non, c'est pas
grave.
Je rigole en plus. Je rigole. Nombre de points récupérés. Vous voulez savoir combien le nombre de points récupérés?
Oui, pour terminer, oui.
Voilà, nombre de points récupérés par rapport à l'année d'avant. Eh bien, il y en a moins 0,4% l'année dernière. Donc, en fait, ça veut dire que... non, c'est 0,45%. Donc, il y a eu plus de points récupérés l'année dernière que par rapport à l'année d'avant. Donc ça, on voit bien que...
Malgré les 80 km/h et toute la pagaille.
Malgré les 80 km/h, exactement.
Jean-Luc, on va revenir dans un instant. 9h26, la météo avec Madame 12 points de la météo. Oui, il faut attendre.
Mais Madame 12 points, elle roule combien? Elle fait combien de kilomètres par an, Madame 12 points?
Bah, elle fait beaucoup de kilomètres, je suis sûr, Claire.
Ouais. Ouais, franchement, pas mal, je pense. Hein.
Et voilà. Ouais. Non, mais attendez. Ouais, vous croyez quoi?
Ouais.
Hein, et puis, nous découvrirons cette start-up française qui s'appelle ProofStation, qui a mis au point une expertise automatique de votre véhicule en 3 secondes. On en parle dans un instant et puis on retrouvera Franck aussi qui nous parlera de son Range Rover. C'est RMC, c'est l'automobile jusqu'à 10h. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Nous voilà de retour, 9h31, le week-end des experts l'automobile. Gaëtan fait jaser, Jean-Luc, la 3008 de Gaëtan qu'on a eu tout à l'heure.
Pas fait jaser, c'est que tout le monde cherche la solution.
Tout le monde cherche.
Voilà.
Et nous avons Sam qui nous a envoyé un petit message sur Direct Studio. Il nous dit qu'il faudrait regarder si quelque chose ne coule pas sur le capteur pression ou nettoyer les cosses du capteur car ils sont de mauvaise qualité et s'oxydent vite. Reste aussi à vérifier si le faisceau n'est pas pincé quelque part. Ce genre de défaut arrive souvent sur PSA et Renault.
Bon, voilà. Ça fait des pistes, hein.
Gaëtan, bon courage. D'ici 10h sur RMC tout à l'heure, notre rendez-vous sur le vif. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une voiture neuve fin 2020? Est-ce qu'on peut faire de bonnes affaires? On verra ça. Mais dans l'immédiat, Jean-Luc, on va découvrir une start-up qui compte bien révolutionner peut-être le... Comment dirais-je? L'état des lieux des véhicules, ouais, l'expertise des véhicules.
L'expertise automobile.
C'est Proof Station et nous avons Cédric Bernard avec nous au téléphone. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Bonjour Cédric. Bon alors moi j'ai un train de retard par rapport à François qui vous connaît déjà parce qu'il vous a vu aux
États-Unis. Oui, on s'était croisé au CES de Las Vegas. Alors je ne sais pas si c'était vous que j'avais vu, mais j'avais vu quelqu'un de votre start-up.
Oui, oui, bah sûrement, ouais, ça fait deux fois qu'on y est allé. Ouais. Là, cette année, on avait annoncé la commercialisation du coup de notre produit.
Alors expliquez-nous ce que vous faites, simplement pour tous ceux qui nous écoutent.
Alors simplement, si vous voulez, en fait, aujourd'hui, dans Proof Station, c'est une start-up qui développe un produit qui a l'intention en fait d'automatiser, industrialiser, standardiser le processus d'inspection automobile mondiale. Il faut savoir qu'en fait, il y a plus de 5 milliards un peu d'inspections qui se font chaque année dans la chaîne de valeur automobile, hein, que vous soyez un constructeur, un logisticien, un réseau de distribution, réparation. Et c'est un processus qui est aujourd'hui manuel, qui est chronophage, hein, qui prend du temps entre 15 et 30 minutes si vous voulez réaliser une inspection de véhicule d'occasion, qui se fait sur papier. Et bien, c'est bien sûr pas précis, coûteux, et dans laquelle en fait vous avez une expérience à la fois client et collaborateur qui est pas terrible. Donc ce qu'on a réalisé là depuis 4 ans, ce qu'on a lancé notre société il y a 4 ans, après 4 ans de R&D, en fait on a développé un produit, si vous voulez, qui fonctionne en 4 étapes, qui fonctionne un peu comme une arche, si vous voulez, et où on va venir scanner le véhicule en seulement 3 secondes, en fait.
Donc on passe,
alors expliquez-nous,
on
oui,
passe
c'est
sous
arche,
un portique,
on passe sous le portique.
Tout alors, à fait.
Il y a
fait,
quel type roulant, de capteur
Alors c'est que de l'optique. Nous on travaille que sur de l'optique où en fait on va réaliser une série de photos. Il y a entre 800 et 1000 photos du véhicule qui vont se faire au moment où vous passez en 3 secondes dans le portique. Et derrière, on a développé toute une intelligence artificielle qui va venir en fait identifier, quantifier et localiser l'ensemble des dégâts présents sur le véhicule en fait dans le même laps de temps.
C'est-à-dire que vous avez une base de données avec toutes les caractéristiques du véhicule neuf entre guillemets, et si par rapport aux photos que vous avez, vous remarquez qu'il y a une déformation, donc une différence de taille, vous estimez que c'est un défaut, un accident, une rayure, une bosse, etc.
En fait, ouais. Alors nous, on a ce qu'on appelle des bibliothèques de dommages. En fait, c'est ce qu'on reconnaît sur les véhicules. En fait, la marque, le modèle, la finition du véhicule, nous importe peu. Ce qu'on va regarder, c'est les matières. Et chaque dommage a une signature numérique précise, en fait. Et c'est grâce à ça où nous, on va venir identifier, localiser l'ensemble des dégâts présents sur votre véhicule à chaque passage.
Donc, par exemple, j'ai une aile qui a bossé. Donc, je passe sous le portique. Et comment vous détectez que c'est une aile qui a bossé?
Eh ben, du coup, c'est là où en fait l'intelligence artificielle va jouer son jeu, c'est-à-dire qu'elle va détecter qu'il y a une anomalie présente sur le véhicule, elle va venir interroger les bases de données et nous délivrer un résultat, c'est-à-dire qu'elle va identifier que justement c'est une partie qui a bossé, votre véhicule qui est présent. Et ça va permettre en fait aux professionnels d'avoir automatiquement, si vous voulez, un rapport d'inspection à chaque passage de véhicule et de venir ensuite chiffrer justement l'ensemble des dommages et des réparations à faire sur le véhicule.
Ah ouais. Mais vous avez forcément une base avec les caractéristiques du modèle normal, entre guillemets, non cabossé, non?
Non, on a une base avec l'ensemble des dégâts possibles qui peuvent se retrouver sur tous les véhicules et les matières possibles, en fait.
D'accord. Alors si je passe une voiture très moche, il va me dire qu'elle est cabossée, c'est ça?
Ouais. En fait, y a ce qu'on appelle un peu un grading aussi du véhicule qui passe. C'est-à-dire que selon le véhicule qui passe, selon son âge, sa marque, son kilométrage, etc., potentiellement l'output, enfin
oui,
qui va ressortir du produit, n'est pas forcément la même chose. Parce que sur une Mercedes de 20 000 km de moins d'un an, vous n'allez pas forcément chercher le même résultat que sur une Dacia qui a 120 000 km et 7 ans.
En effet.
Donc, forcément, on va venir en fait, mettre un niveau de finition quand même sur le rapport qui est fait. Et on se met au même niveau que l'humain en fait. On fait vraiment le même travail qu'auparavant un professionnel pouvait faire lors d'une réception atelier et lors d'une inspection classique d'un véhicule.
Est-ce qu'on peut détecter un défaut structurel? Par exemple, la voiture est tordue, ça peut arriver ça. Est-ce que vous arrivez à le détecter ou pas?
Alors nous, on va se concentrer sur toute la partie esthétique du véhicule. Donc vraiment tout ce qui est visible. Donc on remplace toute la partie contrôle visuel. Donc dès qu'il y a une anomalie qui est détectée et qu'on l'a enseignée à l'IA, oui, on va être capable de le détecter.
D'accord.
Alors, vous en êtes où aujourd'hui, Cédric? Ces portiques Proof Station, on en trouve où?
Alors, aujourd'hui, vous en trouvez principalement en fait, chez les constructeurs automobiles, les gros logisticiens, les professionnels de ce qu'on appelle le remarketing. Donc, c'est les gros revendeurs de véhicules d'occasion qui ont des unités de reconditionnement, des choses comme ça. Donc on est déployé un peu dans plus de 14 pays aujourd'hui. Il y a 80 portiques en fait qui sont en cours de déploiement et pour la plupart en fonctionnement dans l'ensemble de ces pays. Ça va représenter à peu près 9 millions d'inspections par an. Qui, pour nous, est hyper important. En fait, chaque inspection va amener des données complémentaires pour augmenter l'accuracy, c'est-à-dire le niveau de précision de l'intelligence artificielle. Donc, ça fait grossir cette fameuse
vidéo. Et oui, bien sûr. Ouais, plus il y a de scans,
plus on apprend.
Plus il y a de scans, plus on apprend.
Bon, on imagine que c'est pour arriver chez les loueurs.
Oui, chez les loueurs en voiture,
dans les aéroports.
Vous avez déjà des loueurs qui ont testé votre service?
Alors oui, on est en relation avec les loueurs. Pour être sincère, la situation actuelle,
oui, c'est vrai.
Covid, etc.,
n'est pas
complexifie un peu la chose, mais bien sûr que les loueurs aujourd'hui, c'est un point de douleur un peu de réaliser l'inspection du véhicule, surtout qu'ils avancent sur le côté véhicule disponible en 24/7, ouvrir avec un smartphone, etc. Et du coup, la seule phase, c'est la phase d'inspection, une fois qu'ils l'auront automatisé, effectivement, ils vont pouvoir arriver à réduire à la fois le coût et améliorer aussi l'expérience et même créer un peu des nouveaux modèles sur la partie location véhicule.
Merci beaucoup, Cédric.
Merci, Cédric.
Voilà, encore une fois, une pépite française, ProofStation, c'est une bonne idée, hein, ça.
Oui, c'est une bonne idée.
Voilà, et ça peut révolutionner pas mal d'étapes de vérification de véhicules. 9h38, on revient dans un instant, Jean-Luc, avec la Range Rover de Franck qui sera avec nous. En fait, il a acheté en LLD cette Rover. Il aimerait savoir s'il peut la racheter. Est-ce que ça a un intérêt? Tiens, c'est une bonne question. On va s'y intéresser dans un instant. Puis je vous rappelle qu'à tout moment, le 32-16 est à votre disposition. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On revient dans une minute, à tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Nous sommes de retour. Encore un petit quart d'heure à passer ensemble dans ce week-end des experts auto. On salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et puis on vous salue à vous qui écoutez ce rendez-vous en podcast, en replay tout au long de la semaine via l'appli RMC ou sur d'autres agrégateurs de podcasts. Merci d'être là. Jean-Luc, dans quelques minutes, on va essayer de comprendre si c'est le bon moment de changer de véhicule et d'acheter un véhicule neuf. En général, à la fin de l'année, on a des super promos hein, quand on veut acheter un véhicule. Est-ce que cette année 2020, qui est hors norme, est toujours aussi intéressante à ce niveau-là? On en parle dans un instant. Mais auparavant, c'est Franck qui nous a rejoint au 32-16. Bonjour Franck.
Oui, bonjour messieurs.
Bonjour Franck.
Bienvenue.
Merci de m'avoir pris pour ma question et félicitations pour votre émission qui est toujours très intéressante. J'ai acheté en 2016, donc j'ai un Range Rover Sport, un TDV6 HSE en LLD. Je fais à peu près 20 000 km par an, pas 22 000, uniquement, essentiellement sur. Je prends cette voiture vu qu'elle est quand même assez imposante et que ça devient difficile de le garer. Dans les villes, dans les parkings, sur des grands trajets. Voilà. Donc, étant sur Chambéry, je fais pas mal de montagne aussi. J'ai pris cette voiture à LLD au départ sur 3 ans, que j'ai prorogé sur 2 ans. Donc,
oui.
J'ai sur 5 ans, 115 000 km. Aujourd'hui, on peut racheter cette voiture à. Elle a 82 000 km et je peux racheter cette voiture. On me la propose à 47 000. Et j'avais deux questions. La première question, comme vous l'avez dit, c'est est-ce qu'il y a un intérêt, hormis le fait que c'est une belle voiture, j'en suis très content, un beau moteur et un confort exceptionnel. Est-ce qu'il y a un intérêt à racheter cette voiture en fin de contrat ou un an avant la fin du contrat, et là, déjà? Et deuxièmement, vu que c'est un moteur diesel, je me pose la question, si je la rachète, je vais la garder en fait à peu près peut-être 4-5 ans jusqu'au bout.
Oui.
Je pense que ce sont des moteurs fiables, ce sont des moteurs Peugeot, mais ce sont des moteurs fiables, enfin, il me semble. Est-ce qu'il y a un intérêt de racheter par rapport à l'évolution du marché automobile, des contraintes futures dans les villes par rapport au diesel, à l'évolution de l'hybride, etc.
D'acheter, et dans 4-5 ans, vous achèteriez un véhicule plus écologique, en fait, c'est ça hein, l'idée?
Disons que aujourd'hui, oui, en fait, dans 4-5 ans, je pourrais racheter, oui. Après, si je ne rachetais pas cette voiture, je rachetais près. De toute façon, on n'a pas beaucoup le choix aujourd'hui, puisqu'on a quasiment que des hybrides en face de nous ou des essences.
Ah bah de toute façon, les essences déjà chez Land Rover, ça, c'est terminé. Hein. Ça sera forcément ou de l'hybride light ou de l'hybride rechargeable. Mais bon, si parce vous aimez cette voiture-là, autant continuer chez Range Rover.
Parce que vous avez quoi, 82 000 km, c'est ça?
Oui.
Bon, et, ça vous, et sur 4 ans, donc vous ne roulez pas énormément.
Ouais, vous ne roulez pas beaucoup. Ouais.
20 000.
Ouais.
Est-ce que ça vaut le coup un diesel dans ce type de véhicule?
Non, mais c'est pas ça. C'est tout est une question d'argent. Vous le rachetez combien, votre Range Rover Sport là?
47 000.
47. Il est en bon état?
Oui. Il est en bon état. Oui. J'ai jamais. Oui, il n'y a pas eu de problème. Enfin, je l'ai conduit donc.
Parce que c'est le moment. Vous auriez appelé il y a 6 mois. Bon. Je vous aurais dit gardez-le. Là, c'est peut-être le moment de franchir une étape puisque Land Rover propose maintenant de l'hybride rechargeable. Alors, qui va être encore plus sympa à conduire que le vôtre, hein, parce que l'hybride rechargeable sur le Range Sport,
c'est pas mal.
On est à 404 chevaux de puissance cumulée. Donc, vous imaginez, vous êtes en montagne, dans les côtes. Vous allez vous demander si vous n'êtes pas dans le sens de la descente, même si vous voulez, quand vous accélérerez. Donc, on peut faire, on va dire, aller une trentaine de kilomètres, entre 30 et 40 kilomètres en tout électrique, ce qui peut être sympa si vous habitez quand même à proximité d'une ville où ça vous évitera de polluer. Bon, après, le truc qui pique les yeux, c'est le tarif.
Oui, ben voilà.
C'est ça, parce que ça démarre à 91 000 euros quand même. Hein, donc,
une hybride, c'est à peu près 105 000 ou 110 000.
Le Range Sport hybride rechargeable, 400E, il démarre à 91 000 et des brouettes. Quoi,
mais avec des options sympas.
Si vous ajoutez un volant et des roues.
Donc, il y a quand même un coût important.
Ah oui, on rajoute l'autoradio.
Vous doublez, mais vous pouvez reprendre en même temps.
L'autoradio à 10 000 euros, ça va, je trouve, c'est honnête. Hein.
Oui,
surtout avec l'option RMC.
Ça n'a pas de prix, on est d'accord.
Il faudrait qu'il y ait des constructeurs qui fassent des autoradios avec une seule station.
Oui, ça c'est bien.
Ça serait pas mal.
Alors je ne sais pas si c'est peut-être discutable en termes de liberté, mais bon.
Non, après, le truc, c'est comme vous l'avez en location avec option d'achat, c'est de changer de véhicule et puis de garder le même principe de voir ce que ça vous coûtera en mensualité de changer la voiture.
Oui, et de prendre cette fois-ci un hybride rechargeable.
Et de prendre, à toute façon, là, faut pas hésiter. Si vous devez changer, vous prenez un hybride rechargeable.
Merci Franck pour votre appel. Allez Jean-Luc, justement, on reste Franck. Vous pouvez peut-être rester dans les parages parce que c'est peut-être un sujet qui va vous intéresser. Peut-être que Franck va décider de changer de voiture suite à votre réflexion, Jean-Luc, là pour les fêtes de fin d'année, en tout cas pour la fin de l'année. Et on en parle avec Reynald Thévenet qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour Reynald. Bonjour Jean-Luc.
Directeur général d'AutoJM. C'est quoi AutoJM?
Alors AutoJM, c'est un mandataire automobile, c'est-à-dire que nous importons des véhicules de l'étranger sur mandat de client, ce qui permet, on va dire, à nos clients de bénéficier de tarifs un petit peu réduits du reste de l'Europe, qui peut démarrer à 20%, 15% et monter jusqu'à 40%. Donc,
d'accord.
Voilà, c'est ce qui nous distingue des concessionnaires en France.
Oui. Reynald, d'habitude, le mois de décembre, c'est plutôt le mois des bonnes affaires pour acheter des véhicules parce que les vendeurs doivent faire leur quota en fin d'année. Donc, ils ont tendance à accorder des réductions un peu plus importantes. Ça sera vrai encore cette fois ou pas?
Alors, ça sera vrai et pas vrai à la fois. Et tout va dépendre aussi de qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis des décisions gouvernementales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des gens comme nous, mandataires, 80% de notre business se fait par Internet, donc nous sommes faiblement touchés. Mais les concessionnaires, aujourd'hui...
Ouais, on ne peut pas aller en concession aujourd'hui.
Ils sont fermés, ils peuvent assurer les livraisons, mais ils ne peuvent pas prendre de commandes, sauf pour ceux qui se sont arrangés pour faire un petit peu de la prise de commande par Internet.
Oui. Est-ce que le report des bonus, des malus au mois de juin, ça va avoir un impact justement sur les commandes du mois de décembre?
Alors là, il y a deux phénomènes. C'est vrai qu'en général, on va dire le mois de décembre, c'est une augmentation de 20 à 30% de la volumétrie des ventes par rapport au mois précédent. Cette année, il va se passer deux choses. Il va se passer qu'il y a le changement de la norme Euro 6D. Ce changement de norme fait qu'il y a un certain nombre de véhicules qui ne répondent pas à cette norme, qui vont devoir être immatriculés avant la fin de l'année.
Et là, j'ai vu 600 000 véhicules en Europe qui répondent pas à la norme.
C'est Mike Manley, le président du groupe Fiat, qui a annoncé que ça représentait certainement une volumétrie de 600 000 véhicules. et qui avait demandé à la Commission européenne donc un report de cette norme à cause de la crise sanitaire, à cause de la fermeture des showrooms, à cause du ralentissement des usines pour se mettre aux normes.
Ils ont refusé. Mois,
mais qui a été refusé.
Donc ça veut dire qu'il y a 600 000 voitures qui doivent être vendues absolument, enfin doivent être immatriculées avant le 1er janvier.
Doivent être immatriculées, voilà. Et alors, bon, faut savoir que ça se produit assez souvent, on va dire tous les un an et demi, il y a un changement de norme qui fait que l'ensemble de la profession s'oblige à immatriculer ou à faire des immatriculations définitives auprès des clients le plus rapidement possible. Donc c'est un phénomène assez récurrent.
Donc ça, c'est plutôt positif pour le client potentiel qui va pouvoir avoir une réduction parce qu'il faut que les vendeurs se débarrassent, entre guillemets, rapidement des voitures.
Bah, disons que s'il trouve un client, il va pouvoir l'immatriculer au nom du client. Donc du coup, le coût de la carte grise ira sur le client. S'il n'a pas trouvé de client, il devra les immatriculer lui-même.
D'accord.
Donc, tenant compte de ces deux phénomènes-là, il aura tendance à vouloir essayer de faire partir les stocks le plus vite possible.
Ça, on est d'accord. Donc ça va plutôt dans le sens de
faire de bonnes affaires.
Voilà. Maintenant, est-ce que le report des bonus et des malus, ça permet de faire aussi des bonnes affaires?
Alors, on va dire que il y a un autre phénomène qui fait qu'il est bien d'acheter maintenant, c'est que les usines sont au ralenti. Et les stocks diminuent de plus en plus. Les stocks diminuant, si vous regardez un petit peu l'historique des tarifs sur les 5 derniers mois, vous verrez qu'ils sont en augmentation. Donc on est plutôt dans un marché qui va à augmenter.
Hein. D'accord.
Parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on demande une fabrication usine, on est retrouvé à, si vous vous rappelez ce qui s'est passé il y a quelques années, on attend parfois un an, hein, pour recevoir le véhicule qu'on faisait en commande usine. Et ben, on commence à retomber à ce niveau d'attente qui peut être de 4, 6, 8 mois maintenant sur les commandes usine. Donc les gens qui sont pressés d'avoir un changement de véhicule vont se diriger vers des stocks, et comme les stocks sont de plus en plus faibles, les tarifs ont tendance à augmenter. Je dirais que le report de 6 mois, c'est très bien, je veux dire, pour le français en général, parce que ça permet de sortir de cette ambiance d'incertitude. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va pouvoir faire les fêtes de fin d'année? Est-ce que je vais être au chômage partiel? Est-ce que j'aurai le budget pour m'acheter un véhicule ou pour m'acheter ce que je veux? Donc, le français a besoin de sortir des incertitudes. Donc, à partir du moment où on lui donne des certitudes dans le temps, ça lui permet de lui rendre plus serein et de savoir, j'ai pas besoin de me précipiter, je peux prendre mon temps, réfléchir, choisir la bonne solution. Donc on va dire que c'est rassurant pour le marché automobile sur le long terme, sur le moyen terme.
D'accord. Vous avez des bonnes affaires en ce moment? On va parler de choses très concrètes. Il y a des bonnes affaires à faire? C'est quoi les meilleures affaires plutôt? Sur quel type de véhicule? Qu'est-ce que vous avez en stock là qui est bradé ou qui n'est pas très cher en ce moment?
Alors, on peut trouver des hybrides, comme du CHR, qui sont à des très bons prix.
On a aussi
Avec quel montant de réduction, Reynald?
Là, on doit être à peu près aux alentours de 35%.
Ah oui, c'est pas mal. C'est très intéressant.
En plus, c'est des voitures qui ont du sens.
Oui, oui.
Voilà.
Tout
d'accord.
À fait. Et puis, on a aussi... certains des concessionnaires ou autres peuvent avoir des bonnes affaires sur les 3008, sur les 5008. Pourquoi? Parce qu'on arrive au nouveau modèle, les anciens modèles. Il peut y avoir aussi des très bonnes affaires pour ceux qui sont prêts à prendre encore l'ancien modèle.
Okay.
Et donc il y a un certain nombre de bonnes affaires à faire actuellement.
Ah ouais, moins 35% sur le CHR, ça vaut le coup. Merci beaucoup. Reynald Thévenet, donc DG d'Auto JM. Jean-Luc, il nous reste une minute. L'actu de la semaine dans le monde de l'auto. Et tiens, on va parler de cette initiative de Volvo qui fait tomber, écoutez bien, des véhicules neufs d'une hauteur de 30 mètres.
Ouais, on pourrait appeler ça jeter l'argent par les fenêtres. En fait, il n'en est rien.
Vous étiez dedans ou pas?
Non, je ne fais pas les crash tests. J'ai arrêté. Ça me donne mal à la tête.
Vous en avez fait quelques-uns. Je ne vais pas entrer dans les détails.
En fait, la marque suédoise trouve que les crash tests d'homologation et même les crash tests Euro NCAP sont trop gentils. En effet, les experts en désincarcération, ça vous y connaissez, mais en plus en incarcération vous d'ailleurs, s'entraînent sur des voitures qui viennent de subir ce genre de test. Or, lors d'un accident à grande vitesse ou du choc avec un poids lourd par exemple, les déformations enregistrées sont bien plus importantes que celles subies lors d'un crash test conventionnel. C'est donc pour offrir aux secouristes des véhicules des véhicules avec des déformations extrêmes que Volvo les lâche du haut d'une grue de 30 mètres. Alors j'ai eu Volvo, ils m'ont dit qu'ils acceptaient de le faire avec la Fuego. Donc si vous pouvez leur emporter la Fuego, ils feront un test aussi pour voir ce que ça donne de 30 mètres de haut.
Je sais pas trop ce qui... Peut-être qu'elle se transformerait en Twingo, non, ou un truc comme ça.
Je sais pas ce que ça donnerait.
Hein, ça pourrait être rigolo.
Enfin, quand on voit déjà la tête qu'un XC60 là, qui tombe de 30 mètres de haut...
Mais 30 mètres, c'est énorme.
Et pourtant,
hein,
oui, c'est énorme.
On rigole avec ça.
C'est une des voitures les plus solides actuellement sur le marché. Quand on voit la tête qu'elle a, on se dit qu'il y a certaines voitures, à mon avis, il ne resterait rien, quoi.
Jean-Luc, on sera là dimanche prochain. Vous le savez, votre auto, 7h-10h sur RMC. Et dans un instant, bon dimanche, Jean-Luc.
Oui, sous vos applaudissements.
Sous vos applaudissements, bien sûr. Ça, c'est pour tous les jeunes, évidemment. C'est une remarque à la Jacques Martin, hein, que vous ne connaissez peut-être pas. Jean-Christophe Drouet, je suis au bout du rouleau.
Jolie passe d'armes entre vous deux. Hein.
C'est vrai.
C'était agréable à suivre.
Ouais, c'est sympa.
Salut François, salut Jean-Luc.
C'est cette franche camaraderie qui nous...
il y a des gens qui disent des fois, François, il va fort quand même. Je lui dis, mais c'est pas grave, parce qu'il rigole en le disant. C'est le jour où il sera sérieux que ça m'inquiétera.
Dans quelques instants, les paris RMC. Évidemment, nous allons parler de l'équipe de France qui affronte dans deux jours la Suède. Et puis, on avait bien pronostiqué, on vous avait bien conseillé hier pour ce match entre le Portugal et les Bleus. Beaucoup de matchs internationaux et peut-être un mot, peut-être un petit bonbon en fin d'émission de golf, mon péché mignon. Allez, à tout de suite sur RMC.
Bon dimanche avec RMC, j'aurai le plaisir d'être là le week-end prochain. Portez-vous bien, salut à tous.